d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi et c'est la version Agir ensemble contre le chômage cette semaine. Alors après la semaine dernière, vous allez entendre la suite du forum chômeurs et précaires dont nous avons diffusé la première partie la semaine dernière. Donc c'était le forum chômeurs précaires intermittents, un revenu et des droits pour exister et c'est une conférence qui s'était tenue le 24 octobre à Paris. Donc la semaine dernière, on avait évoqué la disparition de l'emploi et l'hypothétique mise en place d'un revenu d'existence pour tous, comme solution au chômage, bien entendu. Aujourd'hui, nous aborderons avec Alain Véronèse la réduction du temps de travail comme solution au chômage, toujours, dans un deuxième temps, la place du travail dans le futur revenu d'existence avec Catherine Lebrun de Sud Solitaire. Je suis avec Gilles. Bonsoir, Gilles.
Bonsoir.
Eh bien, on s'écoute ça et puis on reprend la parole dans une dizaine de minutes. Merci.
Bien, moi le boulot qu'on m'a donné, parce qu'on parle beaucoup travail, c'est d'examiner deux points et essayer de faire le lien, montrer la synergie qu'il peut y avoir entre deux revendications. L'une est la réduction dans le travail et l'autre c'est l'instauration d'un revenu de base ou revenu garanti, etc. Poser les principes et les définitions du revenu de base, des différentes appellations et ce que cela signifie suivant les associations ou les groupes qu'ils défendent. Et deux, je vais être obligé de parler la réduction de travail, qui est quelque chose d'extrêmement important à la période. Et après, puisqu'il faut être réaliste, en lien avec la réduction de travail, je vais voir, serait-il possible de financer un revenu de base pour tout le monde, etc. Et voir quel type de société, ce que ça pourrait changer dans les rapports de force. Et d'abord, bonne nouvelle, la réduction de travail a lieu tous les jours. Mais oui, on voit bien qu'on peut vérifier chaque mois avec la publication des chiffres du chômage, la réduction de travail a lieu tous les jours. Bon, bien évidemment, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, et si on avait un revenu garanti, peut-être on pourrait vivre le chômage différemment et inventer de nouvelles façons de vivre. Mais c'est pas ce qui se passe actuellement pour des raisons que j'ai pas besoin de développer très longtemps. Petite citation crypto-marxienne, le partage de la valeur ajoutée se fait en fonction du rapport de force capital-travail, le taux de chômage est un élément fondamental de ce rapport de force. Aujourd'hui, plus le chômage augmente, plus le patronat et les entrepreneurs ont la part belle. Et cette réduction dans le travail, ça va... Mauvaise réduction dans le travail, parce qu'il n'y a pas partage du travail, ça va s'accélérer aujourd'hui. Et je vais en revenir là-dessus, il y a des gains de productivité absolument formidables. Informatisation, robotisation, automatisation... Les gains de productivité font qu'on peut imaginer, à l'horizon de quelques décennies, une production quasiment sans hommes, ou quelques techniciens et quelques manutentionnaires périphériques, quoi. Et quand on réclamait, il y a donc un peu plus de 20 ans de ça, les 32 heures AAC, compte tenu des gains de productivité, aujourd'hui, on devrait finalement réclamer moins, de façon à ce que les gains de productivité ne soient pas à peu près totalement confisqués par les actionnaires et ceux qui se partagent les dividendes. Et malheureusement, je vois bien que dans la gauche syndicale, dans les partis politiques, et je peux l'observer tous les jours, cette revendication de travail n'est pas mise en exergue alors que ça devrait être quelque chose qui soit écrit en gras en tête de tous les tracts. Il est vrai que récemment, le patron de la CGT a dit que les 32 heures, ce serait une bonne idée, et même notre ministre de la Justice a dit que finalement, on devrait peut-être parler des 32 heures et la réduction du temps de travail. Mais toujours est-il que c'est pas vraiment quelque chose qu'on a mis en débat dans la société, et je le regrette assez fort, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est pas sans lien avec un revenu déconnecté du temps de travail. Un revenu continu pour une activité discontinue. L'activité discontinue serait évidemment un temps de travail qui pourrait être fortement réduit compte tenu des capacités productives d'aujourd'hui. Bien. Maintenant, le revenu de base. Bon, vous le savez, il y a pour le même principe, grosso modo, il y a différentes appellations. On dit revenu de base, allocation universelle, dotation inconditionnelle d'autonomie, revenu garanti, revenu social garanti. Bon, ce sont différentes appellations, mais grosso modo, cela renvoie au même principe, au même schéma. Il y a des nuances et surtout il y a des différences quant à l'estimation du montant, mais c'est grosso modo le même principe. Le principe central qui réunit les revendications, quelles que soient les appellations, c'est un revenu totalement déconnecté de l'emploi et de l'employabilité. Grosso modo, en France, ce serait 65 millions de personnes qui auraient le droit à un revenu de base, etc., quelle que soit leur activité et leur âge. Pour certaines associations, certains groupes réduisent le montant du revenu de base pour les mineurs à 50% d'un montant dont je vais parler tout à l'heure et qui varie suivant les différentes tendances, les différentes revendications. Cela rejoint un peu les revendications d'AC d'il y a 20 ans, mais c'était un emploi ou un revenu, mais c'était pas totalement déconnecté de l'emploi. Grosso modo, on pensait ça, en attendant le plein emploi, etc., il nous faut des moyens pour vivre, donc le SMIC permet de vivre chichement, nous réclamons le SMIC, en attendant le plein emploi, une réduction de temps de travail. Alors que là, vous voyez que le revenu de base, c'est quelque chose de différent dans le principe. Vous travaillez pas, mais même les enfants, les vieillards, etc., tout le monde a le droit à un revenu, même s'il n'est pas productif au sens économique du terme. Il y a là une sorte d'évolution mentale extrêmement intéressante. Si on veut examiner l'histoire du revenu de base garantie sous différentes appellations, nombre d'auteurs, y compris dans l'économie politique ou mouvement, renvoient à Thomas Paine, 1993, la Révolution française. Mais j'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Et pourquoi il faut penser à revenus déconnectés de l'emploi, etc. Parce que je reviens sur mes gains de productivité. Et là, nous vivons une formidable mutation productive dont il nous faut tenir compte pour essayer de penser l'avenir du travail et l'avenir de la société. En m'inspirant de divers auteurs que je ne vais pas tous citer parce que ça va devenir un peu lourdingue, mais notamment Bernard Stiegler, qui était assez présent dans la lutte des intermittents, dans un livre qui s'appelle « J'ai écrit la société mécanique, mais c'est la société automatique », fait voir qu'il va nous falloir tenir compte des gains de productivité pour distribuer des salaires qui ne soient pas directement indexés sur le temps de travail. Quelques exemples. J'ai dit tout à l'heure, on peut imaginer une production quasiment sans producteur, quelques techniciens et quelques manutentionnaires périphériques. Et ce qui est curieux, c'est qu'on n'en parle pas beaucoup aux sociétés. Oui, informatique, robotique, système cybernétique, et on a même des algorithmes maintenant à vocation prédictive, on peut, suivant votre fréquentation d'Internet, déterminer votre profil social, politique et sexuel. Ce sont des choses qui font des gains de productivité, mais c'est un peu inquiétant. Et même dans les différents journaux, les Échos, c'est plutôt une feuille patronale. Ils font valoir aussi qu'il va falloir repenser la durée du travail. Bon, la documentation est terriblement abondante, mais c'est pas quelque chose qu'on arrive à discuter de façon centrale dans la société. Là, je manifeste un étonnement. Et quant à la robotisation, on nous fait valoir que l'année dernière, au niveau mondial, plus de 225 000 robots ont été installés en 2014. Bien évidemment, l'installation s'accélère. On espère des gains de productivité de 30% à l'horizon d'une décennie et d'ici 2025, une réduction du coût du travail de plus de 18%. Bon, il y a des choses dont, là, à mon avis, même en Chine, c'est là où il y a l'industrie de main-d'œuvre, etc., une entreprise qui travaille pour des transnationales plutôt occidentales, à savoir Foxconn, qui travaille pour Apple et pour d'autres entreprises, qui vient d'investir 17 milliards de dollars pour économiser 1 million de postes de travail, même en Chine, etc. Bon, revenons en Europe, en Allemagne, par exemple. L'industrie allemande, dans le secteur de l'industrie, la valeur ajoutée brute par heure travaillée a sextuplé en 4 décennies. Et dans l'agriculture allemande, les gains de productivité sont encore beaucoup plus importants. Et il y a même, c'est un exemple que je crois, je dois à Jean-Claude Michéa, du côté de la haute technologie Internet. White Apps, vous avez peut-être vu ça sur Internet, c'est une messagerie extrêmement sophistiquée. Est estimée à 19 milliards de dollars, elle emploie 50 personnes. 19 milliards de dollars de chiffre d'affaires, elle emploie 50 personnes. Après la Chine, l'agriculture allemande, etc. Non, réveillons-nous, nous vivons une révolution productive qu'il nous faut essayer de penser. Le travail n'est plus ce qu'il était, il ne pourra pas le redevenir, et peut-être, d'une certaine façon, à condition de briser le paradigme, ça se pourrait être une bonne nouvelle, ce pourrait être. Mais il y a un travail culturel idéologique à faire. Bon, ça veut dire que la valeur travail, y compris au sens économique du terme, le temps de travail, la plus-value, la survaleur, etc., est extrêmement menacée. La valeur travail au sens moral, au sens éthique, etc., est aussi quelque chose qui ne peut plus perdurer dans la société actuelle. Alors, je voulais parler du revenu de base et des possibilités de financement du revenu de base. Quand je disais que la productivité est quelque chose d'infernal, il faut faire beaucoup en peu de temps, je simplifie. Est-ce possible, je vais rester sur la France, de financer un revenu de base? Il y a différents nouveaux, etc. Et je simplifie mon argumentation, mais l'association Utopia chiffre le revenu de base à 800 et quelques euros, ce qui est la mesure du seuil de pauvreté à 60% du revenu médian. Le niveau, c'est important parce qu'à partir de 860 euros, on peut discuter le rapport de force, de négociation avec le patronat change, et on peut aussi, comme le dit un autre auteur, Noémie Klein, refuser les boulots de merde. Parce qu'il y a pas mal de boulots qui sont inventés, des boulots merdiques. Si je suis assuré des minimums vitaux, ma capacité de négociation avec le patronat change fondamentalement. Donc le revenu de base et le montant du revenu de base, c'est une question d'économie politique absolument essentielle. Et André Gorz disait, après avoir changé d'avis, bien sûr il faut revendiquer un revenu de base, mais à un niveau suffisant. Parce que s'il n'est pas suffisant, vous êtes encore condamné à faire des petits boulots merdiques. Alors je simplifie, allez, 30 secondes de plus, avons-nous les moyens en France? Il y a Baptiste Bilondeau, vous avez entendu parler de lui, il a écrit quelques bouquins, il est proche de l'association Utopia, qui fait valoir, bon, il a fait les calculs pour 2010, bon, mais le PIB d'aujourd'hui, en France, 2014, est 2132 milliards, virgule quelque chose. Ça veut dire, et c'est tout à fait théorique, si on divisait en parts strictement égales pour tous les Français, quelle que soit leur situation, nous aurions à partager 1276 euros. Je parle des nouveaux déviants. Ce qui veut dire, quantitativement, il n'y a pas stricto sensu de problème économique pour instaurer un revenu de base. Bon, il y a d'énormes problèmes idéologiques, politiques, etc. Mais nous avons les moyens, si nous le décidons, d'instaurer un revenu de base à un niveau suffisant qui permettrait de changer le marché du travail en changeant le rapport de force sur le marché du travail. C'est en ce sens-là que le syndicalisme classique du conflit de classe, un certain marxisme, etc., pourrait ou devrait se retrouver dans la revendication du revenu de base. Mais je sais que Jean-Marie Ribet, dont j'aime bien les arguments, n'est pas d'accord. C'est quelque chose qu'il faut essayer de penser. Je vais conclure. Et bon, comme le disent différents auteurs, bon, le revenu de base déconnecté de l'emploi, connecté avec réduction du temps de travail, parce que ça permettrait de négocier le temps de travail et refuser les boulots merdiques, etc. Mais ça ne pourra se faire que s'il y a un changement économique, mais aussi un changement idéologique, un changement culturel. Il nous faut briser le paradigme ou le cadre de pensée dans lequel nous a enfermé le capitalisme. Il y a une sorte de boulot d'écologie mentale à faire valoir. Et les revendications qui paraissent impossibles aujourd'hui, peut-être sont-elles finalement totalement réalistes, pour autant qu'on change de paradigme et qu'on brise le carcan mental dans lequel nous a enfermé le capitalisme. Citation d'André Gorz, et je termine. Il est des époques où, parce que l'ordre ancien se disloque, ne laisse subsister que des contraintes vides de sens. Le réalisme ne consiste plus à vouloir gérer ce qui existe, mais à imaginer, anticiper, amorcer les transformations fondamentales dont la possibilité est inscrite dans les mutations en cours. C'est tiré d'un livre d'André Gorz, 83, dont le titre est, à mon avis, significatif, créateur, Les chemins du paradis.
Il faut une chasuble d'or pour chanter Veni Creator. Il faut une chasuble d'or. Nous en tissons qui gronde.
C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus.
Bonsoir, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. C'est toujours l'émission Mode d'emploi, l'émission d'agir ensemble contre le chômage cette semaine. Eh bien, vous venez d'entendre Alain Véronèse qui vous parlait de réduction du temps de travail et revenu de base. L'un n'allant pas sans l'autre pour lui. Alors Gilles, que t'inspire cette interview? Tu étais présent à la conférence?
J'étais présent à la conférence. Et donc, bon, c'est très intéressant de voir que les chômeurs sont encore capables de se mobiliser et puis de tenir table ronde, conférence, etc. pour exprimer leurs pensées
profondes.
Et il y en a. Il y a de la pensée. On ne sait pas ce qu'on est chômeur, qu'on n'a pas de cerveau.
C'est gentil de le rappeler. Les 3 millions et demi ne sont pas responsables, totalement responsables de leur sort. C'est voilà. Gentil de ta part.
Alors effectivement, voilà. Il y a un chômage de masse, on l'a pas inventé, malheureusement. C'est pas malheureusement, mais effectivement, peut-être que le revenu garanti de base, de l'existence, est peut-être une solution pour permettre à tous de vivre décemment, donc d'avoir effectivement de quoi manger, avoir un toit, etc., etc. Mmh. Et que c'est effectivement pas connecté avec le monde du travail, hein. C'est donc tout le monde pareil. Mmh. Ceux qui travaillent auront cette somme en plus de leur salaire, et donc, ça me paraît très bien.
Donc il n'y a pas de problème, que tu veux dire.
Le souci, c'est pour ça qu'effectivement, il le disait dans son interview. Il faut changer le carcan, le logiciel, voilà, casser d'accord. un peu le paradigme. Parce qu'on est dans une mondialisation, à outrance, et puis que, les patrons sont pas prêts à lâcher l'affaire, quoi.
D'accord. Alors, je vais t'interroger 5 minutes là, si tu es d'accord. Qu'est-ce que tu penses des critiques qu'on entend régulièrement concernant le fait que finalement ça va pas résoudre tous les problèmes, notamment que ce serait une façon d'appauvrir les services publics, hein, c'est-à-dire que, dans le meilleur des mondes. Demain, on fusionne un peu toutes les allocations, on fait donc un espèce de revenu de base qui soit décent, on construit donc un revenu décent qui serait autour de
1200
on va dire
euros,
2000 oui. voilà 1000 euros, 1000, bon voilà quelque chose comme ça. Mais finalement, ce serait une façon finalement pour l'État de se décharger de ses responsabilités concernant le service public. Alors typiquement, bon, il y a évidemment l'hôpital qui coûte très cher, mais pas que, il y a aussi le logement,
national,
il y a, voilà, et donc. Donc on pourrait supposer hein, que ce qu'on donne d'un côté, on l'enlève de l'autre. Donc le revenu de base ne fait-il que déplacer les problèmes?
Je pense pas, parce que nous sommes un pays. Mais enfin, on fait croire que nous sommes pas si riches que ça, mais on est quand même un pays riche hein, par rapport à d'autres pays dans le monde. Donc on a les moyens de garder nos services publics, de payer les salariés de façon correcte, et en plus de donner effectivement le revenu de base, qui reviendrait, si j'ai bien entendu l'intervention d'Alain Véronèse, à 2000 milliards d'euros, l'équivalent du PIB.
Ça, c'est le PIB.
Ouais,
oui.
C'est le PIB, voilà. Donc, c'est vrai que 1200 euros par personne sur 65 millions de personnes, ça fait beaucoup. Mais il faut chercher des moyens de financement. Donc, effectivement, les moyens de financement, ça peut être la taxe Tobin, la mise en place de la taxe Tobin, donc une partie de cette taxe.
Et ça, on n'en parle plus. T'as remarqué que ça oui, mais qu'elle a été mise en place.
Oui, elle a été mise en place. Une partie de l'Europe a accepté.
De façon un peu...
Voilà. Donc, ce serait éventuellement la taxe Tobin.
Et puis bon, ça serait pour le monde entier, là. Ça
pour
serait
le monde
pour
entier.
La France.
Tout à fait. D'accord. Donc, ce serait une partie de cette taxe, ou bien...
quelque chose de très mégalo.
Voilà. Ou bien prendre un pourcentage minimal dans le cadre de l'entreprise pour... puisque, par exemple, la formation professionnelle, c'est 0,8% de la masse salariale. Donc, on pourrait prendre, par exemple, 0,2% pour...
Oui. En fait, tu serais favorable à la mutualisation, de formes de disons de salaire, ce qui existe déjà en fait oui. par les entreprises, hein, c'est-à-dire ce qui existe via l'assurance chômage, l'assurance sociale, donc mutualiser des revenus un peu plus importants, donc assis grosso modo sur le travail, quoi. C'est
absolument.
Ça que tu proposes. Ok, oui. Et ben écoute, on va écouter la suite justement qui aborde aussi cette question avec Catherine Lebrun de Sud Solidaire. Et Catherine Lebrun de Sud Solidaire va parler du travail.
justement, puisque c'est là, bon, hein, c'est comme si on parlait un peu que des chômeurs, du revenu d'existence, etc. Et donc elle nous parle justement du fait qu'il y a quand même à côté de ce revenu de base d'existence un monde du travail. On l'écoute.
Bonjour à tous. Alors, je me présente, hein, Catherine Lebrun de l'Union syndicale solidaire. Donc, et par ailleurs, j'ai travaillé à Pôle emploi. Bref. Non, moi, ce que je trouve, on le voit bien d'ailleurs dans les questions après, ce qui est frustrant, c'est qu'évidemment, on a chacun choisi un thème, une focale, alors qu'en réalité, toutes les questions autour desquelles on tourne sont à plusieurs entrées et posent beaucoup de questions, pas uniquement est-ce que c'est une histoire de revenus, est-ce que c'est une histoire de salaire à vie, est-ce que... Donc évidemment, c'est forcément frustrant, et avant de développer sur la question du statut du salarié, notamment par rapport au licenciement, moi je voulais revenir quand même sur plusieurs choses, quoi. Alors d'abord, j'ai entendu le mot croyance tout à l'heure du plein emploi. Si on commence à discuter entre nous en termes de croyance ou de morale, on ne va pas aller très loin. La question qui nous est posée, c'est comment, en tout cas, mettre à bas le système capitaliste et proposer un autre modèle social. Quels sont les leviers les plus efficaces? Il n'y en a pas qu'un seul, non? Mais il n'y a pas la mesure magique qui fait que le système va tomber de lui-même. Il n'y a pas la mesure magique du salaire à vie, il n'y a pas la mesure magique du revenu de base, il n'y a pas la mesure magique non plus, bien qu'on le défende, de la réduction du temps de travail. C'est un ensemble de mesures. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus dans le capitalisme des années antérieures, enfin... Et même 70, donc il y a eu un tournant, dont tout le monde situe aux alentours des années 80, un tournant libéral à l'échelle internationale, et il y a une évolution du capitalisme qui nous pose des problèmes qui n'ont rien à voir avec les problèmes qui étaient posés à la génération qui a connu le capitalisme des années 60 ou 70. Donc là, on raisonne comme si l'adversaire n'avait a priori pas bougé, qu'il n'y avait pas une révolution numérique et qui posait sacré problème par rapport au salariat, qu'il n'y avait pas une extension de la sphère de la marchandise et une volonté du capitalisme en général de transférer sur la collectivité tout ce qu'ils appellent, eux, les charges sociales. Donc on a face à nous une offensive depuis les années 80 qui pose des questions nouvelles aussi bien au mouvement syndical qu'au mouvement associatif qu'aux partis politiques d'ailleurs, hein. Et les réponses ne peuvent pas être uniques. Aussi, lorsqu'on discute entre nous, il faut qu'on distingue aussi de quoi on parle, parce qu'on a bien vu derrière les mots, que ça soit le salaire, que ça soit le salariat, que ça soit le revenu, chacun met derrière ces mots une définition particulière. Et il y a une chose aussi que je voulais dire, c'est que derrière, ils ont pris certaines propositions, il y a mille et une versions, hein. Je prends que le revenu de base, comme disait l'autre, c'est l'auberge espagnole, hein. Le revenu de base, il y a alors 36 000 théories, ça va être des théories libérales d'ailleurs qu'on revoit ressurgir évidemment maintenant, c'est pas un hasard, jusqu'à des théorisations beaucoup plus sophistiquées et beaucoup plus intéressantes, bon, et qui d'ailleurs ne mettent pas en opposition, comme j'ai entendu tout à l'heure, de la bataille sur les droits des chômeurs et la bataille dans la sphère du travail. Il y a une réflexion, une articulation entre tout ça qui paraît quand même plus intéressante du point de vue de la réflexion. Et la deuxième chose aussi qu'on doit, quand on fait des propositions, c'est comment on articule ce qui relève des revendications d'urgence immédiate telles que par rapport aux allocations chômage, l'augmentation des minima sociaux, ou même quand on demande 300 francs d'augmentation, 300 euros de... Comment on articule ces revendications immédiates qui sont absolument décisives aussi pour la vie quotidienne de tout le monde, des revendications qu'on appelle transitoires ou intermédiaires, peu importe le terme, mais qui sont des revendications qui commencent à mettre, je dirais, des incursions dans le pouvoir patronal, dans le pouvoir du capital, et donc le statut du salarié, en l'occurrence, de notre point de vue, c'est une sorte de revendication intermédiaire, mais qui permettent de montrer qu'on peut, en tout cas... remettre en cause le pouvoir du capital et le pouvoir patronal, et un projet de société globale qui, évidemment, soit un projet alternatif au système capitaliste tel qu'on le connaît. Donc ces trois niveaux de réflexion, il faut qu'on soit capable de les articuler de façon, en tout cas, à donner à voir à une majorité qu'on peut se battre au quotidien, mais en même temps avoir un projet utopique, et ce n'est pas un gros mot, un projet utopique. Et ça manque aujourd'hui un projet utopique, hein. Je pense que même y compris dans les partis politiques, c'est assez ras bitume de mon point de vue. Bon, donc c'est, je veux dire, cette réflexion-là, tout le monde doit se la poser. Et ça, c'est en lien avec le rapport de force sociale. Pour construire le rapport de force sociale, il faut aussi, en tout cas, convaincre une majorité, jamais l'unanimité, c'est bien, mais une majorité de personnes qu'il y a un moyen de faire autrement et que, évidemment, il faut ensemble avoir un projet collectif. Parce qu'il y a aussi des propositions qui, moi, de mon point de vue, sont plutôt poussent à l'individualisme et du coup ne permet pas d'avoir en tout cas une ambition collective d'une autre société. Et certaines revendications sur le revenu, moi, je trouve, poussent à ça. Et moi, me semble pas, de ce point de vue-là, en tout cas, nous arme pas, en tout cas, si on veut, si on a l'ambition d'avoir un autre projet de société. Et il y a aussi une troisième idée, moi, qui me semble importante, c'est l'idée de la démocratie sociale. Parce que là aussi, on peut pas... la démocratie sociale et liberté, d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas, du point de vue de la liberté, être libre, je dirais, à mi-temps. Hein. C'est, on ne peut pas être libre à mi-temps si, dans la sphère, disons, du travail, les rapports ne sont pas libres, mais qu'il y a encore exploitation. On ne peut pas séparer les deux. Donc, s'imaginer qu'on peut être totalement libre en laissant toute une sphère de la société, notamment dans la sphère du travail, où les rapports d'exploitation continueraient à exister, mais nous, de notre côté, on aurait notre revenu, ça, c'est une utopie. Alors, c'est une illusion totale. C'est pas une utopie, c'est une illusion totale. Bon, donc ça veut dire qu'il faut réfléchir en articulant les deux. Voilà. Et ne pas se dire qu'un revenu, enfin, un seul revenu garanti, quelle que soit d'ailleurs la somme qui est avancée, donc permettra de libérer tout le monde. Ça, c'est faux. Je veux dire, ça, si on commence à raisonner comme ça, je pense qu'on est mal parti. Donc, moi, c'est une première... Et sur la démocratie sociale, c'est ce qui est important, là aussi, c'est de ne pas déserter la lutte entre le capital et le travail. Parce que on ne peut pas se contenter de dire, de dire qu'il faut un autre partage de la valeur ajoutée entre salaire et profit. Évidemment que c'est une bagarre essentielle. Un autre partage des gains de productivité à travers la réduction du temps de travail, et c'est essentiel. Mais on doit aussi contester le droit de propriété aussi. Là, je ne l'ai pas entendu du tout. Dire que, c'est totalement éliminé dans la réflexion. Donc, la réflexion, pour aller jusqu'au bout, c'est aussi de repenser un projet autogestionnaire. Et ça, je pense que c'est un enjeu pour nous tous, y compris maintenant, il y a quelques expériences dans certains pays, à la faveur de la crise, qui, même si c'est très, très modeste, mais il y a une résurgence, en tout cas, d'une volonté d'avoir, disons, des projets autogestionnaires et qui se concrétisent. Bon, donc il y a des réflexions qu'on doit reprendre et qui sont plus du tout abordées, y compris par le mouvement syndical, d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est une vraie lacune, et je pense que c'est une piste qu'il faudrait travailler. Et dernière chose, c'est aussi la réflexion, c'est comment on articule exploitation, oppression. Parce que, évidemment, que c'est pas possible non plus d'avoir une réflexion sur un projet émancipateur sans se poser la question des oppressions, et notamment, ça a été abordé, la question des femmes. Et là, je pose la question aussi aux camarades qui défendent l'histoire du revenu. C'est que tout le monde pense, évidemment, que ça peut déboucher sur un salaire maternel et renforcer le renvoi des femmes à un rôle que l'on conteste par ailleurs. Je veux dire, cette dimension d'oppression, quand on a une réflexion, il faut l'intégrer. Enfin, bon, je terminerai simplement sur ce qui, soi-disant, m'amenait. ce qu'on appelle, nous, le statut un nouveau statut du salarié, c'était en réponse par rapport à la question des licenciements. Mais évidemment que ce que d'autres syndicats d'ailleurs évoquent, l'idée qu'il faut absolument une formation professionnelle continue, qualifiante, le fait de la transférabilité des droits, le fait y compris que la définition même du licenciement serait évidemment à revoir, et non, alors que là, évidemment, toutes les mesures qui sont prises, c'est pour faciliter les licenciements, alors qu'il faudrait, en tout cas, au contraire, avoir des définitions contraignantes. Bon, bref, évidemment qu'il y a tout ça. Le maintien du socle contractuel, l'idée que, pour le reclassement, qui est, aujourd'hui, une simple, disons, mesure cosmétique, dont le patronat se débarrasse facilement, parce qu'il n'y a absolument aucune obligation de résultat, c'est simplement une obligation de moyens. Et alors que si on l'imposait comme une obligation de résultat et non limitée dans le temps, reclassement dans le bassin d'emploi, dans, soit dans le groupe ou ailleurs. Bon, ça, mais en faire une obligation de résultat, c'est, ça serait un changement majeur. Et enfin, évidemment, et comme dans toute mesure, c'est d'abord qui finance quoi. Et là, évidemment, l'idée, ça serait que ça soit un fonds patronal mutualisé. Ça existe d'ailleurs pour les accidents de travail. Donc, ça serait un fonds patronal mutualisé et pas uniquement comme... C'est peut-être la différence qu'il y a avec la CGT qui parle de fonds par bassin d'emploi ou fonds patronal par branche. Là, ça ne répond pas au problème de l'égalité de traitement de l'ensemble des salariés, qu'ils soient dans une PME ou dans une grande entreprise. Un fonds patronal mutualisé à une échelle nationale permettrait de répondre à ce problème-là qui fait que, enfin, quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit le secteur, le salarié continue à percevoir son salaire donc par un fonds patronal jusqu'à temps qu'il retrouve un emploi. Donc évidemment, on voit bien que là, ça change le rapport de force, et y compris d'ailleurs, quand on parle des allocations chômage, ça voudrait dire ça, que tout ce qui est allocation chômage ne serait plus que pour les primo-demandeurs d'emploi avec des ressources publiques. Ça changerait complètement, y compris de ce côté-là. Donc ça modifierait complètement. C'est un sujet sur lequel d'autres ont réfléchi comme nous pour essayer d'avoir une proposition qui soit intermédiaire, transitoire, qui remette un peu en cause le pouvoir patronal, qui évidemment pas changerait pas la société dans son ensemble, mais qui modifierait largement le rapport de force. Donc, et je terminerai sur un dernier truc, c'est que à la question, mais comment on construit le rapport de force et comment on regagne en gros l'hégémonie des idées, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est quand même en minorité aujourd'hui, ceux et celles qui veulent en tout cas avoir un projet de transformation sociale. Pour avoir l'hégémonie des idées, il faut-il encore en tout cas être clair sur nos idées, comme je l'ai dit au début, et dans nos formulations, et surtout être capable de tenir compte de la réalité des rapports de force sociaux aujourd'hui et comment on les amène plus haut, plus loin. Donc, je veux dire, on ne peut pas avoir une discussion abstraite par rapport à ça, et il faut aussi avoir l'idée de quelles sont les revendications qui unifient aussi l'ensemble du salariat dans toute son hétérogénéité. Parce que c'est un vrai souci, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une vision de revendication, je dirais, sectorielle, catégorielle uniquement. Parce que là, pour le coup, le rapport de force sociale qui nécessite une unification, ne peut pas être accompli. Donc voilà, ça c'est un état d'esprit, c'est une manière de penser.
Est-ce un reflet de ta moustache ou bien tes cris de mort aux vaches jusqu'au trépas? Si je ne suis qu'un mauvais drôle, tu joues toujours pour moi le rôle de l'Auvergnat.
Bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. C'est l'émission Mode d'emploi. C'est la version AC cette semaine. Et vous venez d'entendre Catherine Lebrun de Sud Solidaire qui nous parlait évidemment du revenu d'existence et des problèmes que ça peut éventuellement poser au monde du travail et notamment aux revendications des chômeurs. Alors, Gilles, si tu as écouté Catherine Lebrun, que penses-tu en fait hein, cette espèce de débat ou d'inquiétude, on va dire, dans les mouvements de chômeurs, qui consisterait à dire que on passe de revendications entre guillemets réalistes, c'est-à-dire pour une meilleure indemnisation des chômeurs, à quelque chose d'un peu fantaisiste, utopiste, c'est ce que certains disent, mais pas comme ça, en parlant de revenus d'existence ou de revenus de base?
Non, c'est pas utopiste, parce que je crois qu'on peut payer cette somme. Le revenu d'existence coûterait finalement sur l'année, si on donne 1200 euros à 65 millions de personnes, ça coûterait 936 milliards, ce qui est quand même pas mal. Mais le problème qui se pose, c'est les sources de financement. Voilà.
Et tout à fait. Alors qu'est-ce qu'on choisirait comme mode de financement? Est-ce que ce serait par exemple un exemple de sécurité sociale? Donc dans ce cas-là, ce serait assis sur les entreprises en fait. Hein, c'est l'idée. Et quid du monde du travail dans ce cas-là en quelque sorte? Ou est-ce que finalement ce serait l'État ou c'est-à-dire le contribuable en fait, hein, nous qui payerions à la fin?
Non, oui, bien sûr, mais ça peut surtout être les riches qui payent.
Bah oui. Pardon.
C'est le capital qui doit payer.
D'accord.
Faut prendre l'argent où il est.
D'accord.
C'est pas un impôt supplémentaire pour les pauvres.
Donc, tu veux dire que les gains de productivité et les richesses accumulées au cours de ces 30 dernières années devraient servir éventuellement, n'est-ce pas, aller
d'accord,
mais il y a quand même une création de richesse.
Oui, mais il faut garder la création de richesse pour pouvoir payer le revenu d'existence.
D'accord.
Voilà. Okay. Parce que le revenu d'existence, ça ne veut pas dire que les gens restent au chômage. C'est-à-dire qu'ils ont de quoi vivre, et comme ils ont de quoi vivre, ils sont pas anxieux.
Ils ont aussi de quoi travailler.
Ils ont de quoi travailler, d'accord. Voilà, tout à fait.
Okay. Donc tu serais plus sur les théories de Bernard Friot, hein, c'est-à-dire avec son salaire à vie, c'est-à-dire où tu gagnes un salaire à vie, et ensuite tu vas travailler, et le salaire à vie est modulable en fonction de ta qualification, en fait, de tes compétences. Et donc c'est la qualification, en fait, qui va déterminer le poste que tu vas occuper, en quelque sorte, sur le mode un peu de l'université, on va dire. Et donc, grâce à ça, tu as une garantie de création de richesse pour la collectivité.
Et moi, j'y mettrais un petit bémol, parce que je pense que le revenu d'existence ne devrait être donné qu'aux adultes. Mmh. Parce que les enfants sont en train de vont à l'école, se développent, et donc là, ils n'ont pas besoin d'argent. Enfin, ils ont de l'argent de poche de leurs parents, s'ils ont des parents.
D'accord. Ou Bernard Friot est sur les 18 ans, je crois.
Oui, voilà.
C'est-à-dire sur la population active.
Ou même avant, c'est-à-dire même à partir du moment où tu peux travailler, c'est-à-dire au moment où tu es en stage, quand tu fais un BEP, un CAP, à partir de 16 ans, on va dire, de 16 ans, le revenu d'existence s'impose. Alors, peut-être pas à la somme exacte de 1200 euros pour l'adulte, mais peut-être 800 euros, 600, 1000. C'est à discuter.
Franchement, c'est un débat, parce que finalement, comme il a été dit dans le reportage, il y a aussi des théories sur le revenu d'existence, qui viennent de revenus ultralibéraux. Donc, on peut imaginer qu'en fait, ce serait plus un revenu d'assistance. Hein, c'est-à-dire au sens où on va pas laisser mourir ces millions de pauvres, et notamment ces 3,5 millions de chômeurs, entre autres, enfin, et plus les précaires, hein, c'est-à-dire six millions, voilà, c'est en comptant les précaires, les temps partiels, etc. On va pas laisser les mourir, mais on va les laisser à la limite de la survie, c'est-à-dire avec des allocations cumulées. Hein, c'est-à-dire y compris, ça peut être des allocations logement plus des indemnisations qui seraient sur un seuil de 800 euros, ce qui est le 900 euros, ce qui est le seuil de pauvreté. Enfin, c'est plutôt 1000, je crois maintenant, hein, mais voilà, c'est-à-dire les laisser à la limite de la subsistance, pour ensuite se démerder sur le marché du travail, ce qui leur garantit évidemment pas du tout d'être dans la course, puisque là c'est un modèle libéral, hein, d'être dans la course à l'emploi. Et donc voilà, donc le revenu d'existence ne peut pas être trop bas. Parce que s'il est trop bas, il maintient la situation telle qu'elle est, en quelque sorte.
Il maintient une situation d'esclavage, oui, c'est un peu ça, l'idée.
D'assistance. Non,
d'assistance, d'accord. Tout à fait.
Le montant ne doit pas être trop bas.
Non, il ne doit pas être trop élevé non plus, parce que ça pourrait plomber encore plus l'économie déjà qui est plombée.
Alors c'est vrai qu'on parle, donc ça c'était un débat qu'il y a eu aussi, c'est aussi qu'on n'aime pas que peu de gens abordent, hein, mais c'est effectivement qu'on n'aime pas formuler sous ce terme, c'est la mise au travail, entre guillemets. C'est-à-dire, grosso modo, qui va occuper dans ce modèle idéal, qui va occuper les emplois pénibles. Ça, c'est...
Non, mais il faut sortir du principe, faut sortir de cette pensée que le travail, c'est absolument quelque chose de salarié. On peut travailler sans être salarié. Et ce travail-là, il doit être rémunéré, quelque part. Le chercheur qui écrit un bouquin, il travaille. Il est pas automatiquement étant payé. Donc, c'est très bien. Il est payé à partir du moment où il vend ses ouvrages, où il fait des conférences sur son ouvrage, mais il est pas payé. Donc, le revenu d'existence permet de payer tous ceux qui font autre chose que du travail salarié.
D'accord. Mais les travaux pénibles, par exemple, nécessaires à la collectivité.
Les travaux pénibles, il faut les payer. Ça, c'est clair.
D'accord.
Ça, c'est sûr. Faut les payer mieux qu'ils ne sont payés.
D'accord.
Donc, si on prend, par exemple, juste pour donner un chiffre, si on prend il y a 65 millions de personnes qui vivent en France aujourd'hui. On ne sait si mes sondages sont bons. Si on prend les gens qui travaillent dans ce pays, ils sont 28 millions. Et dans ces 28, la population active, hein, c'est 28 millions. Mais sur ces 28 millions, il y a 6 millions de chômeurs, dont la moitié est non rémunérée, et 7 millions de travailleurs pauvres, précaires et temps partiel.
Les deux ne s'additionnent pas. Hein. Les deux ne s'additionnent pas. On dit bien 6 millions de chômeurs.
Oui.
Donc,
ça fait quand même une somme importante. Hein, ce qui fait que sur les 28 millions, tu en retires une dizaine, hein, on va dire, grosso modo. Ça fait qu'en fait, il y a 18 millions de personnes qui travaillent sur 65 millions de personnes.
Oui, c'est ça. Les chiffres sont un peu exagérés, mais effectivement, 7 millions de pauvres, c'est en comprenant finalement les inactifs.
Les inactifs,
quoi.
C'est ça.
7 à 8 millions, mais d'accord. Oui,
dans ce cas-là, ce que je voulais dire, c'est que non seulement il faut payer les gens selon la valeur ajoutée au travail, parce que par exemple, tu prends une chaîne de construction de voitures, donc la mécanique, ces gens-là travaillent à la chaîne ils sont payés quoi? Ils sont payés le SMIG. Et ils meurent très vite, parce que c'est comme ils meurent à 40 balais, 45, 50 ans d'un cancer lié à.
Donc en fait, le revenu d'existence. Le revenu d'existence permettrait de revaloriser finalement les emplois les plus pénibles. C'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'avec un revenu de base et un salaire qui conviendrait, bon, ça ferait que certains emplois seraient plus. Pourraient être mieux enfin, utilisés. Plus décemment, quoi.
Tout à fait. Mais faut coupler ce revenu de base, faut coupler ce revenu minimal avec effectivement la réduction du temps du travail. Ça va ensemble, en fait. Parce que si tu payes les gens quand ils travaillent pas, ça veut dire que pendant le temps où ils travaillent pas, ils peuvent aussi travailler. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils ont une semaine où ils ne travaillent pas, ils peuvent très bien prendre 2 jours de travail par-ci, 2 jours de travail par-là. Mais il faut également payer ceux qui travaillent. Donc avec leur revenu d'existence.
Donc répartir les heures, travailler les heures, les emplois.
C'est un principe de solidarité en fait, c'est ça le principe. Le principe de solidarité, ça veut dire que ceux qui travaillent touchent leur salaire plus leur revenu d'existence, et ceux qui ne travaillent pas touchent que leur revenu d'existence plus éventuellement ce qu'ils trouvent comme travail quand ils en cherchent.
D'accord.
Donc, c'est ça l'idée. C'est
ok, ouais, non.
Et donc travailler, moi j'ai une phrase qui vient comme ça, pourquoi travailler plus alors qu'on pourrait travailler moins pour travailler tous, quoi. Tu vois, c'est ça l'idée.
Très belle conclusion. Eh bien, alors justement, il existe, donc je te le dis, Gilles, il existe des gens qui ont fait l'expérience du revenu de base. Tu me crois si je dis ça? Du revenu d'existence? Bon, t'as tort. Puisqu'effectivement, il y a une profession, enfin, un statut plutôt qui tend à ces espèces de, effectivement, comme tu le dis, hein, de revenus, on va dire de base, et ensuite, hop, on travaille et on touche un peu plus. C'est bien entendu les intermittents du spectacle. Donc le système des intermittents du spectacle, qui n'est pas au départ fait spécifiquement pour les intermittents du spectacle. Et donc on va écouter sur la question Samuel, qui est de la coordination intermittent précaire, et qui va nous parler évidemment de l'histoire du régime, de l'idée de base, et du fait qu'ils ont tenté, eux, à leur petite manière, de pondre un modèle pour le transformer en revenu de base, et pour servir d'exemple en fait au reste du salariat précaire. Donc on l'écoute tout de suite.
Samuel porte le modèle de la coordination des intermittents précaires, mais je ne suis pas précis que je ne suis pas son porte-parole. Il faut revenir à l'historique de l'assurance chômage, à l'historique de la lutte, parce que l'histoire nous apprend beaucoup. La coordination des intermittents des précaires, exactement comme le collectif des matermittentes pour les droits assurance maladie et maternité, ne s'est pas monté autour de droits pour les artistes ou pour les techniciens du spectacle. Le collectif s'est monté autour de revendications de droits sociaux qui concernaient une catégorie de salariés qui étaient en emploi discontinu, à savoir particulièrement les intermittents du spectacle. Bien. Mais si on fait l'historique des annexes 8 et 10, puisqu'on parle beaucoup des annexes 8 et 10 concernant les intermittents du spectacle, au départ, la création des annexes n'ont pas été du tout créés parce que c'était des techniciens ou parce que c'était des artistes, mais bien parce que ces gens-là avaient une pratique d'emploi particulière. Ce que je veux dire, c'est que on était dans une période, entre guillemets, de plein emploi, même si le plein emploi n'a jamais existé, parce que on sait très bien qu'à cette époque, il y avait une grande partie de la population qui ne travaillait pas, c'était les femmes. Mais, et comme l'a dit Mathieu, il y a plus d'employabilité maintenant qu'avant, en pourcentage. Mais on a constaté qu'il y avait une catégorie professionnelle qui était les techniciens du cinéma, puis ensuite les artistes, qui ne pouvaient pas de fait avoir des contrats longs. Donc on a pensé un régime spécifique d'assurance chômage qui assure une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. Encore une fois, ça aurait très bien pu concerner les chaudronniers, les pâtissiers, tout ce que vous voulez, si ces gens-là avaient eu nos pratiques d'emploi. Il s'agissait bien de pratiques d'emploi. Il se trouve que l'histoire nous a rattrapés. À savoir que, comme l'a dit Mathieu aussi, ce qui a explosé ces derniers temps, c'est le chômage à activité réduite. C'est-à-dire que jamais on a vu autant, en fait, les catégories socio-professionnelles devenir comme les intermittents du spectacle. Jamais on a vu autant ça. Bien. Et c'est pourquoi le MEDEF nous a attaqués en 2003. Pour que surtout que ce modèle-là, qui assurait une certaine continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi, ne soit pas élargi à tout le monde. Parce que historiquement, il y a une chose qui s'est passée dans les années 90, et où le gouvernement de gauche à l'époque, Jack Lang, ministre de la Culture, avait sorti un argument qui est absolument fallacieux. Les intermittents du spectacle, les années 8 et 10, c'est au nom de l'exception culturelle. L'exception culturelle n'a rien à foutre là-dedans. L'exception culturelle n'a rien à voir dans l'assurance chômage. Ce sont des droits sociaux adaptés à des pratiques d'emploi. Et au lieu de dire, effectivement, on va essayer de voir comment ce modèle-là pourrait être étendu à toute la discontinuité, on a restreint en disant, hop, on garde ça pour les artistes et pour les techniciens. Et on voit maintenant comment ils vont plus loin en disant, on va garder ça que pour les artistes qui jouent du Racine, parce que finalement, un technicien qui monte un décor, c'est comme un technicien qui monte une cuisine, il n'y a pas de différence. Bien. Et effectivement, si un technicien qui monte une cuisine travaille dans la discontinuité, il n'y a pas de différence avec un technicien qui monte un décor dans un théâtre. C'est pas la spécificité du métier qui fait la qui fait le droit. C'est bien la pratique d'emploi. Je veux dire, il n'y a pas un métier qui doit être associé à une pratique. À ce que je sache, à la Comédie française, il y a des comédiens permanents. Donc comédien, c'est probablement intermittent. Il y a tout un tas de techniciens permanents dans tous les théâtres. Hein, à l'Odéon, il y a 120 permanents. Au Théâtre national de l'Odéon, il y a 120 permanents. On voit bien là comme un métier n'est pas égal intermittent ou permanent. C'est toujours la pratique d'emploi qui devrait être mise en avant. Bien. Et alors, là, effectivement, on s'est heurté à plein de choses. Donc, je ne vais pas revenir à ce qui a été dit. Mais il y a le problème, effectivement, de la gouvernance de l'UNEDIC. Pourquoi le MEDEF ? Comment on a autorisé le MEDEF à avoir un droit de veto ? Hein ? Pourquoi ils ont un droit de veto ? Parce qu'à eux seuls, ils représentent 50% des voix. Donc, on pourrait imaginer un accord signé sans la CFDT, sans etc. Mais sans le MEDEF, c'est impossible. Quand on dit un accord signé sans le MEDEF, c'est impossible, ça veut dire qu'on a laissé au MEDEF avoir le droit de veto. Donc il faut remettre en cause profondément la gouvernance de l'UNEDIC. La deuxième chose, c'est que jamais on interroge comment est gérée cette UNEDIC. Jamais on l'interroge. Pourtant, il y a des chiffres qui sont absolument hallucinants. On oublie que quand on nous parle par exemple de déficit, on oublie que tous les ans, les cotisations perçues dépassent largement les indemnités versées. Hein, si on prend l'année 2011, l'excédent était de 4,5 milliards d'euros. Pourtant, l'UNEDIC annonce cette année-là 6 milliards d'euros de coûts de fonctionnement. Donc, ça fait 1,5 milliard d'euros de déficit. Hein, je dis bien, en 2011, 4,5 milliards d'euros, il y a 4,5 milliards d'euros supplémentaires si on fait cotisation moins indemnité versée aux chômeurs. Hein, 4,5 milliards d'euros en plus, mais vous ajoutez les 6 milliards d'euros de frais de gestion, dont on n'interroge jamais de comment ils sont répartis, on arrive à moins 1,5 milliard de déficit, par exemple, pour l'année 2011. Bien. Donc tout ça, effectivement, est converti en dette. On l'a dit tout à l'heure, ça a été posé à la question, dette qui est mise sur la marché financier. Ces gens-là sont regardés par des agences de notation. Et donc, c'est pourquoi, pour répondre aux agences de notation, pour répondre aux critères des agences de notation, eh bien, à chaque convention d'assurance chômage, on fait que la variable humaine soit la variable d'ajustement. Et le but est de virer le maximum de chômeurs. Je rappelle qu'on est donc à 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés. Le problème n'est donc pas le chômage, mais c'est l'indemnisation du chômage. Le chômage n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'il y a 6 chômeurs sur 10 qui ne sont pas indemnisés. Et le but, c'est d'arriver à ce que 10 chômeurs sur 10 le soient. Bien. C'est pourquoi je trouve que l'ancien slogan d'AC, un emploi, c'est un droit, c'est une catastrophe. C'est un slogan catastrophique. Un emploi n'est pas un droit, on s'en fout. L'emploi est un empêcheur de travail. L'emploi est un empêcheur de travail. Si on ne fait pas la différence, comme je viens d'entendre, entre emploi et travail, on va droit dans le mur. L'emploi, c'est pas le travail. L'emploi, c'est à chaque fois que vous êtes sanctionné par une fiche de paye. Pourquoi on dit toujours les intermittents du spectacle, bah, c'est un bon exemple de ça, puisqu'ils travaillent tout le temps, ils sont employés de temps en temps. Mais c'est valable pour tout le monde, pour beaucoup de gens, pour plein de gens. Si on prend, quand monsieur disait, je vois pas en quoi les intermittents du spectacle pourraient être étendus à tout le monde, bah, qu'est-ce qui fait la différence ? Mais il y a des tonnes de gens. Qu'est-ce qui fait la différence entre un pigiste et quelqu'un qui est employé dans un journal ? Bah, le pigiste, il est comme nous. Il travaille dans l'ombre ses interviews. Il va lire des bouquins, etc. Et pourtant, il n'est payé qu'à la tâche. Bien. Eh bien, si ce pigiste-là, on ne lui donne pas des droits dans les moments où il n'est pas employé, hein, dans les jours où il n'est pas payé comme employé, eh bien effectivement c'est une catastrophe. Alors par rapport à ça, on avait imaginé en 2000 ce qu'on avait appelé un nouveau modèle d'indemnisation qui, à l'époque, déjà ne concernait pas que les intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'on avait imaginé un nouveau modèle qui pète la liste de métiers. On s'est dit on va imaginer un nouveau modèle pour l'emploi discontinu. Un nouveau modèle qui pourrait être valable absolument pour tout le monde qui travaille pour la discontinuité, puisque tout est fait, tout est pensé, y compris l'assurance maladie, tout est pensé autour de l'emploi stable et pas autour de l'emploi discontinu. Donc ce modèle-là est un modèle d'indemnisation qui couvrait absolument toutes les catégories sociales, qui travaillent dans l'emploi discontinu, et qui, à l'époque, c'était 507 heures en 12 mois, n'importe qui ferait 507 heures en 12 mois, donc, avait le droit minimum au SMIC par mois. C'est un modèle qui donne des allocations chômage, actuellement, au niveau des paramètres, de 1 à 2,6 SMIC, suivant le montant de vos salaires et suivant le nombre d'heures que vous avez travaillé. Bien. Et puis, en 2014, lors de la dernière convention, on s'est réunis encore en coordination nationale et on a essayé de péter les critères d'accès. C'est-à-dire que maintenant, c'est un modèle un modèle d'assurance chômage, un modèle d'indemnisation d'assurance chômage, qui donne à absolument tout le monde minimum 1 SMIC jusqu'à 2,6 SMIC, comme je vous l'ai dit, y compris pour celui qui fait 0 heure. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une formule de calcul qui fait que vous mettez le nombre d'heures que vous avez faites, enfin que vous avez déclaré, donc en emploi, hein, mais le nombre d'heures peut être 0, hein, et si vous déclarez 0 heure, 0 montant, ça vous fait 1 SMIC. Donc, effectivement, on peut parler de salaire garanti, si vous voulez. En tout cas, tout le monde a chacun a minimum un SMIC. C'est que on s'est aperçu que les critères d'accès de 507 heures étaient souvent un problème parce que concrètement, il y a des gens qui actuellement, par exemple, font 480 heures et qui vont courir comme des damnés pour avoir leur dernier cachet pour passer la barre des 507 heures. Et quelle que soit la barre que vous mettez, et c'est pour ça que je voudrais rebondir très fortement sur l'histoire de baisse du on devrait dire du temps d'emploi et pas du temps de travail. Pourquoi pas? Moi, j'en ai parlé avec Laroutourou plusieurs fois. Je lui ai dit, mais ton truc de 32 heures, c'est bien gentil. Mais moi, personnellement, j'ai jamais fait 32 heures par semaine. C'est comme le dit, comme tu le dis, il ne peut pas y avoir une solution unique. Je veux dire, le partage du temps de travail ne peut pas être la solution unique. Ça peut être une solution, une des solutions pour essayer d'améliorer les choses. Mais ça peut en rien être une solution unique. Bien, c'est pas pour ça que même si on partage le temps de travail, il y aura toujours 6 chômeurs sur 10, voire si on va vers 7 chômeurs sur 10 qui seront pas indemnisés. Je voudrais très très vite finir par dire que il faut surtout penser à faut penser très fort à un changement de logiciel, très 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 vite. Effectivement, comme l'a dit Mathieu, on est dans un délire de plein emploi qui est un horizon indépassable. C'est un mot vain qui n'existe pas. Et il serait grand temps de séparer les mots travail et les mots emploi, de péter cette chose de l'emploi à tout prix. On rappelle que l'emploi à tout prix, c'est à peu près 120 milliards d'euros par an dépensés pour l'emploi à tout prix. Et on pourrait se dire que ces 120 milliards d'euros par an dépensés pour l'emploi à tout prix pourraient être captés à notamment l'équivalent d'un salaire garanti ou d'une assurance chômage pour tous. Merci.
Oui, bonsoir. Eh bien, c'était Samuel de la coordination intermittent précaire. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel. C'est l'émission Mode d'emploi dans sa version AC. Alors, écoutez, on mettra plutôt en ligne les interventions de cette conférence. Donc, la première partie est déjà en ligne sur le site mode d'emploi-d, mode-d-emploi.net. Voilà. Et donc, on a entendu notre ami Samuel. Il faut définitivement séparer le travail de l'emploi.
Absolument.
Voilà. Donc, un projet sur le modèle, effectivement, hein, des intermittents du spectacle. Et puis, surtout, le plein emploi est un délire, en quelque sorte, est devenu une espèce de fétiche auquel plus personne ne croit et plus personne ne court. Et donc, il faudrait trouver des solutions alternatives.
Il faut surtout travailler moins pour travailler tous, hein, c'est ça.
Aussi, mais bon, ils ont l'air de dire que ça peut pas être la solution totale.
Je suis pas d'accord
totale.
Avec lui, mais pour ça, il a raison de dire aussi. Hein,
eh bien, écoute, on invitera Pierre Laroutourou pour nous parler de la réduction du temps de travail. Alors, cette émission...
Attends, j'ai peut-être une annonce à faire.
Ah, pardon, excuse-moi.
Le 5 décembre, donc le samedi 5 décembre, à 14h30, à la rotonde de Stalingrad, il y a donc la marche des chômeurs. Hein, c'est tout à peu près tous les ans, on en fait une. Donc, on partira de cette rotonde pour marcher ensemble, jusqu'à peut-être parce qu'ils chouent ailleurs, ça dépend de la COP21, bien sûr. Donc, venez les nombreux parce que c'est important de se voir et de se compter aussi. Voilà, donc c'est samedi 5 à 14h30.
C'est ça, comptons les chômeurs. Eh bien, cette émission se termine. Merci de l'avoir suivi. Et donc, la semaine prochaine, vous retrouvez Attaque, je crois bien, c'est ça. Donc c'est l'émission Attaque. Et tout de suite, c'est Bruno Mécano, s'il est là.
Salut.
Bon week-end.